Vous êtes toujours sur Choc FM à Quitry-Hervouët. Je suis au téléphone avec le professeur Norman Cornette. Professeur Cornette, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation, mademoiselle Hervouët.
Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche tous actuellement. C'est la charge affective du terrorisme dans la guérilla virtuelle suite aux attentats de Berlin qui se sont produits il y a quelques jours. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de ce que vous avez ressenti au moment où vous avez entendu qu'il y avait eu des attentats sur un marché de Noël à Berlin ?
Oui, volontiers. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça la charge affective du terrorisme? C'est parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je voyage en Europe ou en Amérique du Nord, que le pouvoir du terrorisme est beaucoup en pouvoir psychologique. Et je dirais même, à l'auditoire de Choc FM, autrefois, quand les États-Unis voulaient justifier, à tort, on le sait par la suite, qu'il y avait en Irak des armes de destruction massive, mais je crois que, moi je maintiens qu'en fait le terrorisme représente des armes de destruction psychologique massive. Et c'est ça sa force de frappe, parce que on se rend compte que n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, eh bien, on pourrait être des cibles du terrorisme. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça la guérilla virtuelle? C'est que autrefois, dans des guerres conventionnelles, il y avait toute une hiérarchie militaire. Eh bien, à cause des médias sociaux, un seul individu peut être l'équivalent d'un bataillon, sinon d'une armée dépendant des instruments militaires dont il se sert. Mais ce qui a changé la donne, c'est que cet individu, souvent on dit, est-ce que s'agit-il d'un loup solitaire? Mais dans quelle mesure peut-on parler d'un loup solitaire quand il est branché grâce à l'Internet, grâce aux médias sociaux? Tout cela fait que cette guérilla est devenue virtuelle. Il n'y a pas un seul, il n'y a même pas nécessairement un lieu physique qui devient le centre du terrorisme, mais c'est maintenant un lieu, des lieux virtuels. À cause de la haute technologie et des communications modernes maintenant. Et on voit très bien que dans quelle mesure ces terroristes se servent des médias. Et j'ose faire un parallèle, tragiquement, c'est que dans la mesure qu'ils réussissent, le mot, j'aime pas employer ce mot, mais
oui,
quand on fait un tel événement comme on a fait à Berlin, eux, ils occupent les médias. Et complètement, ils ont pratiquement une monopolie médiatique. Donc là encore, non seulement y a-t-il la charge affective, car il n'y a plus aucune sécurité nulle part, à aucun moment, pour qui que ce soit. Et c'était d'ailleurs ça la tragédie Charlie Hebdo, on était en réunion de rédaction. Alors, on entre dans la salle de rédaction. Mais là, quand on contrôle, quand on manipule le discours médiatique, le discours politique, eh bien, on a gagné. Et c'est ça. Et il nous faut justement, comme société d'accueil, et ça c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France, de la Belgique, mais je tiens à dire, c'est le cas du Canada par excellence. On est un pays d'immigrants et d'immigrantes. Et c'est grâce à l'immigration que Toronto accuse une croissance démographique. Et c'est super. Mais il y a ce qu'on appelle en termes académiques, surtout pour moi en tant qu'historien, on parle d'un changement de paradigme. Or, cette guérilla virtuelle, comme je l'appelle, à effectuer à toute fin pratique un changement de paradigme pour les sociétés d'accueil, pour les villes d'accueil, comme Toronto, comme l'Ontario, comme le Canada. Et on ne peut plus... Et ça nous met en face de nos valeurs. Vous savez, à Toronto, pourquoi tant d'Américains, d'Américaines venaient à cause de cette mentalité de tolérance que le mariage gay, par exemple. C'était bien avant les Américains, et il y en a encore aux États-Unis qui contestent. Eh bien, pour nous, la tolérance, la liberté, ce sont, en philosophie, on parle d'hiérarchie des valeurs. Or, de tels événements comme Berlin, pour nous, au Canada, à Toronto, en Ontario ou ailleurs dans le pays, ça, on doit penser en termes de ce changement de paradigme. Dans quelle mesure peut-on assurer nos valeurs primordiales de la tolérance, de l'accueil de l'autre? Et puis, évidemment, ça nous... on parle de l'altérité. C'est l'autre qui est dont on a peur. Et tout ça entre en jeu avec ce qui s'est arrivé à Berlin. Et moi qui j'étais il y a 2 semaines à Erfurt, à un des plus grands marchés de Noël, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe de l'Ouest, il y a jusqu'à 2 millions de visiteurs. Or, là, quand je pense à Toronto, quand j'y vais, d'ailleurs, j'étais là pour TIFF. Alors, il y a des foules partout, et puis on fait la fête du cinéma. On fête le cinéma. Et quand on est près du centre Rogers, lors d'un match de basket avec les Raptors, ou bien un match de baseball avec les Blue Jays, eh bien, là, c'est la foule qui est sur les grands boulevards. Eh bien, là, les terroristes, eux, ils étudient le tissu urbain de Berlin, d'Erfurt et de Toronto, comment s'y prendre et faire d'un camion remorque une arme de destruction massive.
Donc vous pensez qu'un camion fonce dans une foule, ça a déjà, ce mode opératoire a déjà été fait à Nice le 14 juillet 2016,
à
Berlin il y a quelques jours. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait se reproduire, ou est-ce que vous pensez que ça serait peut-être un autre mode opératoire, comme par exemple ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 à Paris, où c'était plus au niveau fusil, ils tiraient sur les gens, après ils ont... On sait que au Bataclan, ils ont fini de tuer les gens à l'arme blanche quand ils avaient plus de munitions. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se produire aussi à Toronto, Montréal, Vancouver, dans toutes les grandes villes?
Oui, mais je crois qu'ils vont faire flèche de tout bois maintenant. Eux, ils pensent en termes... Vous savez, quand on parle d'une guerre conventionnelle, comme la Première Guerre mondiale et encore plus la Deuxième Guerre mondiale, on emploie l'expression « la guerre totale », parce qu'on s'en prenait autant aux civils qu'aux militaires, qu'aux soldats. Eh bien, quand on parle maintenant, cette guérilla virtuelle a donné un tout nouveau sens à la guerre totale, de sorte que tout devient une arme pour les terroristes. Et je crois qu'il nous incombe maintenant, et c'est ça qui nous est difficile, parlons pratico-pratique, pour assurer la sécurité des Torontoises, il faut allouer maintenant un budget accru pour la sécurité. On ne veut pas dépenser. Et c'est là où cette guérilla virtuelle, elle gagne son pari, parce qu'elle oblige les pays occidentaux, les villes comme Toronto, à dépenser là maintenant littéralement des milliards pour cette sécurité. Et quand on revient à nos valeurs primordiales, nos valeurs foncières, comme la liberté d'expression, mais dans quelle mesure, quand on se sert des médias, quand on se sert de l'Internet, de la toile, du World Wide Web et tout ça, dans quelle mesure peut-on se priver de la surveillance électronique, de l'écoute électronique? C'est contre nos valeurs. Mais là, on doit repenser comment effectuer une synthèse et de la liberté et la sécurité. Et évidemment, il y a un danger réel qu'on réalise cette vision dystopique de George Orwell dans son livre 1984. Alors là, on surveillait tout le monde pour les contrôler. Et c'est ça, évidemment, l'envers de la médaille. Ça permet de contrôler. Mais en revanche, peut-être nous faut-il permettre la surveillance accrue sur le plan électronique, téléphonique, non pas pour contrôler les citoyens et citoyennes, mais pour les protéger. Et vous savez, on vient d'annoncer dans le cas de celui qui a commis le monsieur qu'on pense qu'il a accueilli, il a commis cet attentat, eh bien, on avait, grâce à la surveillance, on l'avait déjà sous le radar.
Oui, effectivement.
Et c'est ça le grand danger. Mais si on ne pose pas, et on doit repenser la jurisprudence, et évidemment, on ne veut pas accuser avant qu'on commet l'acte, mais en revanche, on ne veut pas attendre que ça soit trop tard. Et je peux vous dire, dans le cas d'Erfurt, je voyais très bien les grands axes qui mènent vers le marché de Noël, et là, avec un camion remorque, on aurait pu, parce que c'était bondé, on pouvait à peine, et c'est devenu tellement visuel pour moi, parce que dans le marché de Noël Erfurt, c'est beaucoup axé vers les familles. Donc il y avait tellement d'enfants parce qu'on crée des jardins de merveilles pour les enfants. On crée une ambiance féerique puisque c'est Noël. Mais là, et puis nous, à Toronto, en Ontario, au Canada, on n'a pas l'habitude d'assister à TIFF avec des policiers et des soldats lourdement armés.
Mais
peut-être il faut que la donne change là aussi.
Et moi, j'avais une petite question, parce que c'est vrai que j'ai longtemps vécu à Paris, et j'étais à Paris le soir du 13 novembre, près de République, donc là où ils ont fait des attentats. Et je sais que moi, j'ai des amis parisiens donc qui habitent toujours à Paris. Et donc à Paris, il y a la police, l'armée qui circulent dans les rues beaucoup plus qu'avant. Avant,
ouais.
On ne la voyait pas, on ne voyait pas sa présence. Est-ce que vous pensez que si le nombre de militaires, le nombre de policiers augmente à Toronto, à Vancouver, à Montréal, dans toutes les grandes villes canadiennes, est-ce que vous pensez que ça ne va pas créer le même climat qu'à Paris? Parce qu'à Paris, les gens ont un peu peur, en fait. Maintenant, les gens ont peur de prendre le métro. Les gens, ils pensent toujours quand on va dans un bar, on se dit potentiellement, on va peut-être se faire tuer parce que c'est vrai que ça s'est produit pendant les attentats.
Mais mademoiselle Herouette, si on cède à la peur, eh bien, ils ont gagné. Et c'est ça, parce que une des valeurs de la société occidentale, c'est le bien-être. Et nous, on peut... Moi, je maintiens, mademoiselle Evouette, que pour tout problème, pour tout défi humain, il y a une solution humaine. Donc, il nous faut être aussi créatifs, autant nous servir de notre savoir, de notre technologie et de notre créativité pour pouvoir assurer que de tels événements se passent bien et pour le bien-être des citoyens et citoyennes de Toronto et les autres grandes villes du Canada. Mais ceci dit, je crois qu'aussi, et c'est pour cela que j'appelle ça la charge affective du terrorisme actuel. C'est que quand on crée une ambiance d'anxiété foncière, comme vous venez de si bien décrire, ou en allemand, le mot est juste, on appelle ça l'angst. Quand il y a un angst collectif, une crainte, une anxiété collective. Et là, évidemment, je fais référence à Carl Jung et tout son concept de la conscience collective. Or, ce qui importe pour les élus à Toronto, en Ontario, au Canada, c'est non seulement de prendre les mesures pratiques, voire avec la GRC, avec OPP, dans le cas de l'Ontario, avec les policiers municipaux de Toronto et des villes en Ontario, mais aussi, faut-il trouver des moyens pour assurer une quiétude collective. Et le défi de taille, mademoiselle Evouette, mais l'être humain est à la hauteur. On l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Et le terrorisme est devenu maintenant un fléau, y compris pour l'Europe et pour l'Occident. Mais c'est pas le premier fléau. Et puis on a trouvé des solutions. Vous savez, je ne pouvais pas m'empêcher, quand j'étais à Erfurt, qui est une ville médiévale, de penser à la peste noire qui a fait des ravages incroyables, qui a décimé la population européenne, l'Europe de l'Ouest. Mais on a survécu, on a surmonté, et grâce à la médecine, grâce à la technologie, vous savez, cette haute technologie, ces médias sociaux peuvent être aussi bien pour le bien des citoyens et citoyennes que des instruments dont les terroristes se servent.
Professeur Cornette, merci beaucoup. Nous avons parlé de la charge affective du terrorisme dans la guerre virtuelle. Merci beaucoup, professeur. Ce sujet est vraiment d'actualité suite aux attentats de Berlin. Et il y a eu également à Paris 4 attentats. Il y en a eu 3 en 2015 et 1 en 2016. Et il y en a eu également à Bruxelles. Et on espère...
Et à Nice.
Et à Nice, effectivement. C'est vrai que l'attentat de 2016 en France était à Nice. J'espère que le sol canadien ne vivra jamais ce que les Européens sont en train de vivre actuellement. Et merci beaucoup, professeur, pour ce sujet qui est vraiment d'actualité et très important et très intéressant.
Mais merci à Choc FM et je souhaite à son auditoire un joyeux Noël et une bonne année.
Joyeux Noël à vous, professeur, et bonne année 2017 également.
Merci bien. Au revoir.
Au revoir.